Yes, bonjour à tous. Je voulais juste introduire par cette grande question de la rentrée. Je ne sais pas comment vous avez vécu la rentrée. Là, on est pas loin du 19-17 septembre. La rentrée a bien démarré. Et chez nous, avec Sarah, la rentrée, plutôt c'est plutôt un gros micmac de plein de choses à remettre en ordre. On est surtout très focus sur le planning, où est-ce que les enfants, je ne sais pas si vous avez ça aussi, dans quelle activité on va les mettre, nous, quand est-ce qu'on va faire du sport, et c'est un bazar pas possible. Si bien que, voilà, en ce moment, nous, on est bien calés là-dessus, mais c'est un défi de mettre les bonnes priorités au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez le même souci, aussi peut-être les attentes de chacun, les amis, la famille, quand est-ce que je vais les voir. Et avec l'équipe pastorale, on a décidé de démarrer une nouvelle série avec l'Église qui est un peu sur ce grand thème de nos priorités. Et on a appelé ça « Pour qui dois-je vivre ?» Pour qui dois-je vivre ? Parce qu'au fond, il y a un petit peu de cette question dans nos priorités. Est-ce que au fond, je veux vivre pour Dieu ? Est-ce que je dois vivre pour les autres ? Est-ce que je dois vivre pour moi, pour ma planète ? Et quand il y a toutes ces attentes, je ne sais pas si ça vous fait un peu cet effet, des fois on est un peu tiraillé dans tous les sens, et on se dit, ouais, c'est compliqué. Ouais, du coup, ça pose la question en fait un peu de notre responsabilité, et un peu de si on veut être utile, en fait, pour les autres. Et parfois c'est un peu simple, c'est pas simple justement. Et... quand on revoit la question de vivre pour Dieu, peut-être certains en ont peur, et j'en parlais avec des amis, tout de suite on me dit, mais c'est vrai, tu vois, vivre pour Dieu, ça fait un peu flipper, parce que on voit des gens qui vivent pour Dieu et puis qui font n'importe quoi. On pense à des gens qui sont terroristes, ou même peut-être même des religieux qui abandonnent un peu leurs enfants au profit de leur foi ou de leur Dieu. Et ça pose un peu cette question aussi. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de vivre pour Dieu ? La question qu'on va voir, c'est pour quel Dieu finalement ? Parce qu'il y a cette dimension aussi qui rentre en compte. Qu'est-ce que Dieu demande quand on vit pour lui ? Et puis, il y a peut-être cette question de vivre pour les autres, qui est très belle comme ça sur le papier, mais qui est aussi hyper difficile à vivre. Au fond, on sait que l'altruisme, c'est excellent, vivre pour les autres, c'est très bien, mais c'est difficile. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne va pas s'oublier quand on vit pour les autres ? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'oublier soi-même ? Et c'est des vraies questions. À une époque, en fait, on était beaucoup plus tourné vers vivre pour une grande cause. À l'époque, notamment dans le XXe siècle, on avait une société qui était vachement tournée vers le sens transcendant, vers Dieu. Mais même quand il n'y avait pas Dieu, il y a eu même un temps où le communisme, c'était un peu cette idée de vivre pour les autres, de mettre tout en commun. Et il y a une belle idée là-dedans, mais aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Et j'ai trouvé un gars super intéressant qui s'appelle Philippe Riff, qui est un sociologue américain, qui a dit, je vais vous lire, « La mort de Dieu en Occident a donné naissance à une nouvelle civilisation vouée à libérer l'individu de toute contrainte dans sa recherche du plaisir individuel et dans la gestion des angoisses qui en découlent. L'homme religieux qui vivait selon la croyance ou des principes transcendants qui ordonnaient la vie autour d'un objectif commun a cédé la place à l'homme psychologique. » L'homme psychologique qui croit qu'il n'existe aucun ordre transcendant et que la vie consiste à expérimenter jusqu'à ce que l'on ait trouvé sa propre voie. L'homme ne se conçoit plus comme un pèlerin qui a entrepris avec d'autres un grand voyage, mais comme un touriste qui explore la vie selon un itinéraire de son cru, avec pour but ultime son bonheur personnel. » Ça pique un peu, hein. Ce sociologue, il n'est pas croyant forcément, il fait un constat, et il ne dit pas forcément que c'était mieux avant, parce qu'il y a des choses aussi qui ont progressé, notamment dans la liberté de s'exprimer, la liberté de croyance. Il y a plein de choses qui ont été positif aussi dans l'égalité entre les différents hommes, les hommes, les femmes, les différentes... Il y a eu des progrès dans l'inégalité, c'est pas encore parfait. Mais il y a quelque chose qui pointe du doigt dans notre société, c'est cet individualisme, en fait. Vivre pour soi, est-ce que ça amène vraiment du bon? Et dans la Bible, il est parlé de deux grands commandements. Alors, finalement, c'est comme si la Bible résumait les deux grands buts de l'être humain. Et Jésus le répète plusieurs fois, il dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. » Et le deuxième commandement, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. » En fait, si on se pose la question « Pour qui dois-je vivre ?», les deux réponses à donner, ce serait « Vivre pour Dieu et pour son prochain. » Alors là, il dit « Comme toi-même », mais ce n'est pas vraiment de s'aimer soi-même. Il n'y a vraiment jamais cet ordre qui est donné dans la Bible de s'aimer soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très contemporain. Ici, c'est vraiment cette idée que naturellement, on a tendance à se protéger soi-même. Et donc, il faudrait qu'on fasse la même chose avec les autres, même s'il peut y avoir des dysfonctionnements des fois. Et aujourd'hui, on s'est plutôt orienté vers la recherche de la confiance en soi. Se dire, pour d'abord aimer mon prochain et même Dieu, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très fréquemment et qui va vraiment dans un sens différent de la Bible. La Bible nous dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Il y a une citation d'une psychologue américaine qui, selon des études, dit dans un article sur le New York Times, elle dit « Les personnes qui ont une haute estime de soi présentent une plus grande menace pour leur entourage que celles qui ont une faible estime de soi. Se sentir mal envers soi n'est pas la cause des problèmes sociaux les plus importants et les plus coûteux pour notre monde. » Et pour notre pays. Ça me jette un petit pavé dans la mare, hein, parce que c'est pas tout à fait la chose qu'on entend très souvent. On nous dit souvent que la confiance en soi, c'est la clé. Mais selon les statistiques, ici, ils font une conclusion inverse. Alors la question qui nous est posée finalement, c'est quel est le moyen pour qu'on puisse aimer notre prochain, qu'on puisse vraiment être utile pour ce monde? Est-ce qu'on a la bonne stratégie? Eh bien, dans la Bible, on va voir une stratégie qui nous est présentée, une façon de peut-être d'atteindre cet objectif d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Parce que finalement, toutes les religions peut-être ont un peu le même créneau, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Peut-être ceux qui n'ont pas vraiment une croyance en Dieu, ils sont assez convaincus que le monde irait bien mieux si on se mettait à aimer son prochain et faire attention à ce qu'il y a autour de nous. Et nous, on va voir du coup un passage dans Matthieu 11 où Jésus va donner un conseil, enfin une sorte d'orientation pour nous aider dans cette grande mission de vivre pour Dieu et pour les autres. Et ça se trouve dans Matthieu 11, au verset 28 et 30. Et juste avant, pour capter un peu le contexte, Jésus, il est avec ses disciples et il leur parle beaucoup de ce qui est bien à faire. Il va les encourager à faire le bien, à pardonner, à aimer ses ennemis. Donc, beaucoup de choses qui finalement font écho à nos deux grands commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et suite à cela, en fait, en disant toutes ces choses à faire, Jésus va rappeler que Dieu est juge. Alors, c'est pas un truc qu'on aime bien, mais en fait, il y a quelque chose de rassurant là-dedans, c'est de dire, Jésus, il dit que Dieu aime le bien et qu'il va juger, en fait. C'est-à-dire qu'il est bon et il aime la justice. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Et du coup, il enchaîne avec ça et on va lire ce passage dans Matthieu 11 au verset 28 et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Jésus dit un truc juste après ça, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. C'est trop intéressant. Jésus, nous invite à venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, à charger, fatigués et courbés sous un fardeau. En fait, oui, c'est difficile de vivre pour Dieu et pour les autres. C'est peut-être on a des attentes avec nos parents, peut-être on a des attentes dans la réussite à l'école, pour sauver la planète, pour faire peut-être donner le meilleur à nos enfants, à notre conjoint, notre conjointe, et en même temps prendre soin de nous. Toutes ces attentes-là, Jésus il dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés et courbés sur le fardeau. En fait, il nous parle de charge. Jésus nous parle de charge. Alors, je ne sais pas si vous êtes parti cet été en vacances, mais quand on part en vacances, en général, on essaie de prendre l'essentiel. Et nous, c'était notre vraie problématique cet été, quand on est parti en vacances en caravane, il fallait vraiment qu'on ait l'essentiel, parce qu'on a 4 enfants, et voilà, ce n'était pas la plus grande des caravanes. Et du coup, c'était la grande question. Qu'est-ce qu'on prend dans nos vacances? Et parfois, c'est un petit peu la même chose pour nos vies, en fait. On a parfois aussi des bagages qui fait qu'on est bien chargé, et c'est comme c'est un petit peu lourd. J'ai le souvenir aussi d'un week-end oxygène avec l'église. Justement, on avait le projet d'aller dans un petit chalet. Alors, je sais que les filles, elles aiment bien les trucs bien cosy. Nous, on a tenté un truc un peu d'aventure. Et on avait un chalet qui, je pensais pas qu'il était si éloigné de la route. Donc on a pris des raquettes, il y avait de la neige et tout, je sais pas si vous vous souvenez. Et bien sûr, on avait toute la nourriture. Et je me souviens avoir eu l'idée de prendre carrément une luge pour mettre tous les bagages. Et puis plus ça allait, plus on voyait que la montée était énorme, en fait. C'était vraiment hyper raide, c'était une piste rouge, en fait. Après, on a capté... Donc, je ne pense pas qu'on a pris le bon chemin non plus. Et on montait. Et en fait, je me souviens d'avoir pris un peu les devants avec notamment Christophe. On s'est dit, allez, on y va. Et on prenait la luge à deux et on est monté. Et puis, on arrivait là-bas exténué, en fait. Et en fait, on s'est dit, bon, on a fait un peu les fiers en voulant le monter, mais on aurait pu aussi se répartir la charge, quoi. On aurait pu peut-être un peu mieux s'organiser. Et des fois, c'est un petit peu ça aussi dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a des charges, on se dit, bon, ça va le faire et tout, je vais encaisser, c'est dur, mais je vais assumer. Alors qu'on pourrait peut-être être aidé, en fait. Alors qu'on pourrait peut-être être aidé. Et dans cette vie, peut-être qu'on a aussi une grosse charge qu'on tire et qu'on n'ose pas en parler, en fait. On n'ose pas peut-être en parler à des amis, mais peut-être même pas à Dieu. Est-ce que finalement, on a cette charge, nous aussi? On l'a d'autant plus quand on veut vivre pour les autres et pour Dieu. Et ceux qui sont parents, des fois, il y a cet instinct naturel qui nous pousse à vivre pour nos enfants, c'est bien. Dieu, il nous dit qu'on peut même vivre. On a cette vocation en tant qu'être humain à vivre non seulement pour nos enfants, mais aussi pour notre entourage. Et quand on porte tout ça, c'est lourd. Alors peut-être que c'était trop lourd pour certains d'entre nous, et moi je me souviens aussi parfois, on se pose la question, est-ce que je ferais pas mieux de penser un peu plus à moi? Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre? Je vois d'autres gens qui ne pensent pas vraiment aux autres, ils ont l'air bien, ils ont l'air de kiffer. Est-ce que finalement je devrais pas un peu lâcher? Vous vous êtes déjà posé cette question? Vous êtes... Non, jamais. Jésus, il dit pas, lâchez votre charge. Abandonnez votre responsabilité, arrêtez de faire le bien. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je trouve ça super, super beau. Et il dit, vous trouverez du repos et je vous donnerai du repos. Et en fait, si on regarde bien, le texte nous parle d'un repos un peu plus loin, et vous trouverez le repos de votre âme. En fait, il ne nous parle pas d'un repos physique. Il parle d'un repos vachement plus intérieur, quoi, on peut dire, un repos spirituel. Et c'est hyper intéressant. En fait, Jésus nous parle d'un besoin spirituel. Il nous dit qu'on peut retrouver des ressources, des forces dans notre âme, dans notre fort intérieur. Jésus nous propose une aide spirituelle et souhaite qu'on puisse vraiment aimer Dieu et notre prochain. Mais l'élément clé de notre passage, il est juste après. Et vous allez voir, là, jusque-là, on se dit, c'est trop bien, Jésus, il est à mon service et tout, c'est génial. Mais il y a quelque chose que Jésus parle ici, un peu après. Il dit, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Acceptez mes exigences. C'est pas un truc qu'on aime, hein. En fait, le terme vraiment original, il parle de joug. Vous savez, le joug, c'est ce qu'on met sur les bœufs comme ça, qui permet de bien travailler. À deux, par exemple. Et en fait, en prenant cette image, Jésus nous dit que il nous appelle à suivre ses prescriptions. En fait, comme si il le met juste après, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. C'est comme si, laissez-vous être mes disciples. Disciple, ça veut dire suivre un maître. Et ça, c'est vrai que cette réalité que Jésus demande, pour nous, c'est difficile, en fait. Parce qu'on est dans une société où on prône l'indépendance, on prône aussi la liberté, et on pense surtout une liberté de faire ce qu'on veut. Et c'est vrai que Jésus, là, met l'accent sur cette idée qu'il est un maître. En fait, Jésus, c'est pas un pote. Il veut être proche de nous, il veut être comme notre ami, c'est vrai. Mais il est aussi un maître, il est aussi un roi. Il est aussi un Dieu qui a créé tout l'univers, en fait. Et c'est ce qu'il présente ici, il dit « Recevez mes instructions ». Voilà, on a deux choses qui, finalement, rentrent un petit peu en opposition. C'est notre désir d'indépendance et notre désir de bien-être. Ça fait pas rêver d'avoir un joug. Ça fait pas rêver parce que je dis, en fait, non, je peux pas faire vraiment ce que je veux. C'est un petit peu dur. Mais juste après, Jésus dit un truc incroyable. Il dit, « Car je suis doux et humble de cœur. » Il dit, « Je sais que vous n'aimez pas avoir de maître. » Mais n'oubliez pas un truc, je suis doux et humble de cœur. Et c'est le seul endroit où en fait on parle du cœur de Jésus. Et le cœur dans la Bible, c'est l'idée que c'est le siège de notre volonté. C'est là où vraiment réside notre premier réflexe. La première réflexe de Dieu, c'est d'être doux et humble, notamment dans la personne de Jésus. Donc Jésus se présente comme Dieu, en fait, Dieu incarné, et il dit qu'il est doux et humble de cœur. Il dit que c'est une raison pour laquelle on peut lui faire confiance. Et c'est trop bien de s'arrêter juste là-dessus. Le terme doux, en fait, doux, ici, c'est un terme qui dit que, en fait, il est enclin à ne pas accuser les gens, ne pas accuser. Il est compréhensif. Il est dans sa propre nature, il a les bras ouverts. Imaginez votre pire ennemi. Imaginez votre pire ennemi, celui qui vous a peut-être volé, qui a braqué quelque chose dans votre maison, ou alors il vous a trahi, vous a ignoré, parce que, voilà, tout un tas de raisons. Quel sentiment vous avez lorsque vous le voyez? C'est terrible, ces personnes, quand on est blessé par une personne. Mais en fait, ici, Jésus, son premier réflexe, quand il voit même une personne qui est son ennemi, c'est de lui ouvrir les bras. C'est ça que veut dire doux de cœur, en fait. Bien sûr, Jésus, il déteste le mal, mais son premier réflexe, c'est de s'approcher de l'être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants jouer avec des limaces, mais moi, ça me fait toujours marrer parce que des fois, les enfants, ils ont peur de rien, quoi, tu vois. Ils prennent la limace toute gluante comme ça et disent « Regarde, papa, j'ai une limace et tout. » Et c'est marrant, c'est un peu comme ça que Dieu est avec nous. On est plein de péchés. Il y a des choses que Dieu, c'est répugnant pour Dieu. Mais il est enclin à se rapprocher de nous. Il est enclin à se rapprocher de nous. Je vous donne cette citation de Dan Horton, qui parle dans son livre « Doux et humble de cœur », il dit « Jésus est parfait et saint et glorieux. » Et, attends, « Jésus qui est parfait et saint et glorieux ne montre aucune hésitation à tendre la main et à toucher ceux que le péché a souillés et que la souffrance a paralysés. Il veut nous serrer contre son cœur. Voilà précisément ce qu'il se plaît tant à faire. Il ne supporte pas de se tenir à distance. C'est pas incroyable, ça ? Je trouve ça vraiment encourageant. Et puis, juste après, il y a humble de cœur. Humble de cœur, en fait, ça veut dire que malgré la gloire resplendissante de Dieu, sa sainteté éblouissante, il est parfait, son unicité et son altérité suprême, il est accessible. C'est ça que veut dire ce mot, l'humilité de Jésus, c'est que il n'impose aucune condition. Il ne dit pas, bon, moi, j'ai rien à voir avec vous, je suis d'une nature beaucoup plus supérieure à vous. Jésus ne dit pas ça, en fait. Il se considère, il nous considère et il se rapproche de nous. Qui veut un maître comme ça? C'est génial, non? Parce que oui, un maître qui nous juge tout de suite, peut-être, qui n'est pas avenant, c'est terrible. Mais quand on sait le cœur de Jésus, qu'il est doux et humble, mais en fait, ouais, n'ayons pas peur de prendre Jésus comme maître, car il est doux et humble. C'est cet encouragement que ce passage veut nous dire. Il dit, mais oui, on a toujours envie d'être sans Dieu. Mais et si la solution, c'était d'en avoir un, en fait? Si on veut toujours être sans maître, mais si la solution à nos vies pour vivre une vie pour Dieu et pour les autres, c'était d'accepter d'avoir un maître. Et la suite du passage est aussi super. Il nous dit, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et si finalement le joug de Jésus ne serait pas une bénédiction? Parce qu'on a tout de suite, on se dit tout de suite, ah mais une exigence, c'est forcément mauvais. Et si on avait été créé pour avoir cette exigence? C'est ce que Jésus pose ici, en fait, comme question. Il nous dit, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas, c'est pourquoi l'élément manquant dans notre vie, le truc qui fait que notre humanité est un peu brisée? Les exigences de Jésus sont bonnes et légères. David Horton, la personne, le pasteur qui a écrit le livre que je disais tout à l'heure, il a dit, ce serait un peu comme dire qu'un homme qui se noie doit prendre sur lui le fardeau d'un gilet de sauvetage et l'entendre nous crier en buvant la tasse. Pas question, pas moi. C'est assez difficile comme ça de couler dans ces eaux déchaînées. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est du fardeau additionnel d'un gilet de sauvetage autour de mon corps. Je trouve ça intéressant comme illustration. Et dans la suite du passage, ouais, en fait, finalement, on voit que Jésus dit que les exigences sont bonnes. Les lois que Jésus nous demande sont bonnes. Et je vous donne quelques-unes de ces règles. Il nous dit que Jésus prendra soin de notre âme. C'est ce qu'on a vu dans ce passage. Et plus tard, on lit aussi que nous avons une responsabilité, c'est de refléter Jésus dans notre vie, refléter Dieu et le cœur de Dieu. Mon corps est précieux et un outil incroyable. Prends-en soin. C'est comme si Jésus il nous dit aussi ça dans les Écritures. C'est-à-dire il ne dit pas qu'il ne faut pas prendre soin de nous. Il nous dit que c'est un don précieux et on doit en prendre soin. C'est-à-dire que oui, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour nous. C'est normal. Il nous dit aussi que tu as de la valeur pour qui tu es. Et je t'aime. Je te l'ai montré sur la croix. Ça aussi, on voit que Jésus nous dit que notre valeur se trouve dans l'être et pas dans le faire. Et puis, il nous dit, fais des disciples de Jésus. Encourage les gens à me rencontrer et à me suivre. Ça, c'est quelques lois, quelques exigences que demande Jésus à nous. Est-ce qu'on les, si on croit en Jésus, est-ce qu'on a pris au sérieux ces exigences? Est-ce qu'on est d'accord avec ce joug et on se met au travail? Ça, c'est vraiment la question que pose ce texte. Il me dit, il y a des exigences. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous croulons sous nos fardeaux et on dit, bon, j'ai tellement à traiter, j'ai pas besoin de ça, je vais d'abord me concentrer sur moi? Ou est-ce qu'on est prêt à se dire, ok Jésus, qu'est-ce que tu peux m'apporter pour que je puisse rentrer dans ton projet, dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain? Voilà, je vous pose cette question, est-ce que vous avez les épaules chargées dans cette rentrée? Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Cette rentrée avec Sarah, nous, on a eu plein de changements avec les écoles différentes et tout ça. Et je me suis vu avoir un coup de stress. Alors, j'ai partagé déjà avec quelques-uns. Quand on est allé au collège avec mon grand, donc il arrive en sixième, et je me souviens pas avoir très très bien vécu le collège. Et quand j'ai vu le collège et tout ça, et entendu la directrice faire son discours, je me suis dit, ah, c'est chaud, j'ai envie de reprendre mon fils et me barrer là. Et c'était drôle de vivre comme un peu un écho de ce que, la mauvaise expérience du collège. C'est pas facile le collège. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que j'en parle au Seigneur, tout ça? Parce que des fois, on a nos soucis, et puis on se dit, tout de suite, on veut chercher une solution, mais est-ce qu'on a pris le temps d'en parler à Dieu? Alors, bien sûr, avec ma femme, on a discuté, elle m'a encouragé à aller vers Dieu, et ça m'a fait grave de bien. Vraiment, c'était fou. Bon, c'est pas le premier réflexe que j'ai fait, mais est-ce qu'on se décharge vraiment sur le Seigneur? Il dit, venez à moi. Alors, si jamais tu as un stress, moi je t'encourage, va vers Jésus, mets-toi, isole-toi. Si vraiment Jésus dit et ce qu'il dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'on attend pour vraiment dédier du temps à se confier à Jésus, à décharger toutes nos galères, tous nos soucis, tous nos stress sur l'avenir? Est-ce qu'on prend vraiment au sérieux ce que Jésus dit? Un petit peu plus tard, Jésus dira à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples en Matthieu 16, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. » En fait, parfois, ce qui nous bloque, c'est que on n'a pas envie de lâcher le contrôle. Parfois, c'est parce qu'on s'accroche à notre vie plutôt que de la confier à Dieu. Est-ce que j'ai pris le temps de confier ma vie à Jésus? C'est ce que nous pose ce texte. Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on puisse aborder ensemble en discutant en petit groupe. Mais juste pour terminer, c'est juste la conclusion qu'on a vue. On a vu le premier point, que Jésus nous propose une aide spirituelle et souhaite qu'on puisse aimer Dieu et notre prochain. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas à avoir peur de prendre Jésus comme maître, car il est doux et humble. Et les exigences de Jésus sont bonnes et légères. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit temps, on a l'habitude de faire ça à l'église, c'est de prendre le temps de discuter et de voir qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je veux appliquer dans mon quotidien. Et donc, on vous propose quelques petites questions à discuter, à 3-4. Donc la première, c'est: avez-vous le désir que votre vie soit utile pour les autres? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de le faire? Deuxième question, l'individualisme dit « pense à toi d'abord ». Jésus dit « suis-moi d'abord ». Avez-vous déjà expérimenté l'un ou l'autre de ces conseils? Qu'est-ce que cela a créé chez vous? Voilà, troisième question. Avez-vous conscience que Dieu de la Bible a un cœur doux et humble? Et qu'est-ce que ça change? Et la quatrième, si vous êtes chrétien, quelles sont les exigences que Jésus vous demande de faire en cette rentrée? Comment allez-vous vous y prendre? Gros programme, et je sais qu'on ne va peut-être pas pouvoir tout aborder, mais c'est super de prendre ce temps. On prend 10-15 minutes, essayez de faire des groupes de maxi 4 personnes, parce que sinon c'est dur que tout le monde puisse s'exprimer. Après, vous sentez-vous libre de vous exprimer ou pas, hein, vous pouvez juste écouter. Mais l'idée, c'est vraiment de partager là-dessus pendant 10 minutes.